Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, mon acolyte en blouse blanche est à mes côtés dans ce studio. Enfin la blouse, il l'a laissée dehors, hein, devant le studio, mais c'est bien le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous l'avez vraiment la blouse blanche d'ailleurs?
Non, c'était bancal comme lancement, mais on valide
d'accord,
quand même.
Allez, très bien. Au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons mettre à l'honneur notre organe le plus noble et tous les tuyaux qui nous permettent de bien fonctionner, à savoir notre cœur et nos vaisseaux. On les oublie parfois, mais c'est souvent dans nos veines et nos artères que les pépins de santé démarrent. Et bien, cet après-midi, on va vous détailler tout ça, comment prendre soin de tout ce système cardiovasculaire, souvent mis à mal par notre mode de vie. Pour en parler, notre invité, ce sera le docteur Nicolas Danchin. Il est cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous sommes dans le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le deuxième cancer le plus meurtrier en France, et pourtant, s'il est détecté tôt, on le guérit dans 9 cas sur 10. Donc on va tout vous dire sur ce dépistage qui n'a pas encore assez de succès en France, mais qui est tout simple. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui s'interroge sur sa féminité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'une auditrice qui vit à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Écoutons-la.
Depuis un an, je suis traitée pour une polyarthrite rhumatoïde généralisée à toutes les articulations. Ma rhumatologue me prescrit des injections mensuelles de Symphony qui ne me font aucun effet. Y a-t-il d'autres injections qui pourraient me soulager ?
Alors pour vous répondre, nous avons fait appel, comme à notre habitude, à un spécialiste du sujet, le professeur Francis Berenbaum. Il est chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Le traitement que vous prenez est effectivement un traitement tout à fait spécifique pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est souvent très efficace. Mais pour autant, il y a des personnes chez qui parfois l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Heureusement, on a beaucoup d'autres traitements pour la polyarthrite rhumatoïde, d'autres traitements qui sont efficaces, qui sont bien toléré. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait une nouvelle évaluation de votre polyarthrite. Ça se fait très facilement chez votre rhumatologue. Et à partir de là, en fait, on établit un score qui va nous permettre de savoir si votre polyarthrite est actuellement active ou pas active. Et c'est en fonction de cela que le rhumatologue va choisir le traitement qui vous conviendra.
Voilà, c'était le professeur Francis Berenbaum au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une deuxième question pour vous cette fois, celle que nous a laissée Johan. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. La semaine prochaine, je vais subir une opération chirurgicale et j'avoue que je suis assez pris d'angoisse. Je stresse énormément. Auriez-vous quelques conseils à me donner pour bien me préparer ? Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, la gestion du stress, on va en parler. Donc stresser avant une intervention chirurgicale, dans ce cas-là, c'est évidemment quelque chose de normal. Mais pour se rassurer, normalement, on peut par exemple profiter, je crois, du rendez-vous avant avec l'anesthésiste qui sert à ça, non ? Évaluer les risques, je ne sais pas si Johan l'a déjà eu, mais c'est un peu un moment qui est clé justement pour poser les questions qu'on peut avoir.
Oui, alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de regarder sur Internet les risques que vous encourez avant une intervention chirurgicale.
Docteur Google, c'est pas terrible en général.
Et, ouais. Et malheureusement, vous aurez que les mauvaises histoires qui finissent mal et pas simplement les gens qui sont très contents mais qui seraient très bien passés. Donc, premier conseil, c'est si jamais vous avez des questions, il faut les poser au chirurgien qui va vous opérer. Et vous les notez parce que parfois on est un peu confus et on oublie ce qu'on veut demander.
Au moment de la consultation, on perd un peu ses moyens.
Ouais. Évidemment, n'en posez pas 40 parce que les chirurgiens ils ont peu de temps à vous consacrer, il faut être honnête, mais 3-4 questions essentielles. Pour l'instant, on ne peut pas trop avoir d'accompagnant, mais quand ce sera possible, ne pas hésiter de se faire accompagner parce que parfois l'information passe difficilement. Le fait que quelqu'un écoute, eh bien, il va pouvoir retranscrire. Et puis ensuite, dans un second temps, vous avez une consultation anesthésiste où là encore, vous pourrez avoir des questions spécifiques, car il ne faut pas oublier, lorsque vous avez une intervention chirurgicale, il y a le geste chirurgical et puis l'anesthésie. Et à ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Même chose, si jamais vous avez des enfants, l'enfant participe et il comprend très très bien ce qui se passe.
Très bien. Alors là, il parle carrément d'angoisses qui ont l'air quand même assez fortes. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour se détendre peut-être dans les jours qui précèdent cette intervention ?
Ce qui lui fait plaisir, peu importe. Honnêtement, ça peut être, je ne vous parle pas de médicaments pour le moment. Ouais. Ça peut être de la sophrologie, ça marche très bien. Ça peut être de la musicothérapie, vous avez le droit d'écouter de la musique. Hein. La musique va permettre de réduire votre cortisol et moduler un peu l'expression.
Elle agit directement sur le cerveau, c'est
directement
ça ?
Directement sur le cerveau, et ça module aussi l'expression de la douleur, et donc on a moins mal quand il y a de la musique. Donc peu importe ce que vous pouvez utiliser de la méditation avec des exercices respiratoires, mais vous vous préparez justement à cette intervention, et encore une fois, Il ne faut pas oublier que le stress est normal et c'est normal d'être stressé avant une intervention.
Et alors si vraiment le stress est incommensurable, on peut pas peut-être envisager quand même, parce que là quand on vous attend aussi Jimmy en dehors de la méditation, mais une petite prémédication, un petit anxiolytique.
Évidemment, pour... alors il y a deux types de stress. Celui qui est normal, c'est une réaction d'adaptation à une agression. C'est normal d'avoir peur. En revanche, si le stress vous paralyse au point que vous dites non mais je ne vais pas vous faire opérer, eh bien effectivement, l'anesthésiste souvent vous laisse une ordonnance avec ce qu'on appelle un antihistaminique, un anti-allergique qui s'appelle de l'Atarax, qui va un peu vous shooter parce que c'est un des effets secondaires. Ce n'est pas un anxiolytique, mais c'est quelque chose qui va avoir pour effet pour vous détendre. Donc, il est possible de vous prémédiquer la veille de l'intervention et même le jour même, on vous donne un petit truc pour vous détendre et ça se passe très bien.
Sinon, l'hypnose, l'auto-hypnose aussi, on n'en a pas parlé, mais dans les petites solutions, ça peut fonctionner.
Je valide,
hein.
Évidemment, ouais, l'hypnose, l'auto-hypnose. Lorsque l'angoisse est telle que vous ne pouvez pas la surmonter, il existe aussi des thérapies avec la réalité virtuelle, des casques qui vous permettent justement de surmonter ce stress et de vous faire opérer et de ne pas annuler l'intervention.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité du jour, c'est le docteur Nicolas Danchin. Il est cardiologue et il vient aujourd'hui partager avec nous ses meilleurs conseils pour prendre soin de notre cœur et même de nos vaisseaux. Et oui, il ne faut pas oublier que pour bien fonctionner le moteur, eh bien, il faut aussi entretenir les tuyaux. Tout ça, c'est dans quelques petites minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, professeur Nicolas Danchin. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et donc si vous êtes avec nous cet après-midi, c'est pour nous aider à prendre soin de notre cœur et de nos vaisseaux aujourd'hui. Alors on va peut-être commencer par les basiques, je dirais. Ouais. Rappelez-nous, c'est quoi le cœur? Enfin, à quoi il sert concrètement? On sait qu'on en a grandement besoin, hein, du cœur, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est quoi sa fonction concrètement?
Alors oui, le cœur, c'est assez utile. Hein,
quand même,
reconnaître.
Voilà.
Alors, c'est un peu, ça joue un rôle de pompe, ou plus exactement d'une sorte de double pompe qui fonctionne en parallèle. Il y a une première pompe qui est la plus évidente, la plus importante, qui est la partie gauche du cœur, qui reçoit le sang qui a été oxygéné dans les poumons et qui va ensuite l'éjecter dans tout l'organisme à travers des conduits qui sont les artères. Et puis après, une fois que le sang est passé dans les muscles et dans tous les organes, il revient par d'autres conduits qui sont les veines.
Dans la partie droite.
Dans la partie droite du cœur. Et là, ce qu'on appelle le ventricule droit a aussi une rôle de pompe moins puissante que l'autre et va éjecter le sang dans les poumons. Et ensuite, c'est le circuit recommence et ça commence comme ça.
Et justement, avec ce que vous dites, on comprend que lorsque le cœur est malade, finalement, c'est tous les autres organes qui vont aussi souffrir.
Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dès que le cœur ne fonctionne plus bien, n'assure plus bien son rôle de pompe, on a ce qui s'appelle de l'insuffisance cardiaque. Et l'ensemble des organes sont mal alimentés. Ils ne reçoivent pas autant de sang, c'est-à-dire pas autant d'oxygène que ce qu'il faut pour qu'ils puissent fonctionner tout à fait normalement.
On a dit, professeur, qu'on parlait du cœur, mais aussi de tous les tuyaux autour. Là, vous nous avez un petit peu parlé de tout ça. Mais quand vous dites, le cœur, on a compris, il est essentiel, cette pompe, elle est primordiale. Mais quand ça déraille dans les vaisseaux, dans les tuyaux autour, les veines, les artères, est-ce que là aussi, ça peut dérégler tout le système cardiovasculaire?
Alors oui, parce que le cœur lui-même, il est alimenté par des artères. Et donc, si ces artères sont abîmées, eh bien, l'alimentation du cœur se fera mal. Donc, le cœur marchera mal. Donc, la pompe va fonctionner de travers.
Donc on comprend qu'il faut chouchouter ce cœur avec les vaisseaux, mais malgré tout, on a du mal à identifier les comportements toxiques qu'on pourrait avoir et qui auront tendance justement à fragiliser notre cœur.
Alors, on commence à connaître quand même assez bien ces comportements toxiques. On connaît à la fois des comportements toxiques et des comportements bénéfiques. Et dans les comportements toxiques, c'est très lié à notre mode de vie. Le tabac, pour prendre un exemple assez connu, on y reviendra peut-être.
C'est pas que le
tabac,
poumon, mais c'est le cœur aussi.
Voilà, le tabac, c'est un toxique très important vis-à-vis des artères et donc du cœur. La mauvaise alimentation, la malbouffe, c'est quelque chose aussi qui peut être toxique à la longue vis-à-vis du cœur. Ce qui est particulier dans tout ça, c'est que les maladies des artères, ça va prendre des années, pour pas dire des décennies, pour se développer. Et ça commence très tôt dans la vie. Ça commence dès l'adolescence ou le stade adulte jeune. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut prendre les bonnes habitudes. Parce que si on arrive à prendre des bonnes habitudes à ce moment-là, eh bien, tout au long de la vie ensuite, on va les garder peu ou prou. On change, hein. On n'est pas exactement le même à 60 ans qu'on ne l'était à 20 ans. Mais grosso modo, les bonnes habitudes qui ont été prises, on va les garder. De même que les mauvaises, on risque de les garder. Ouais. Donc après, on va essayer de les changer.
Ça veut dire que le cœur et les vaisseaux, en tout cas leur bonne santé, il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans, 60 ans, de tout commencer à entendre qu'il y a quelques copains qui font des infarctus, ici et là. Ce n'est pas là qu'on se soucie de ce problème-là.
Non, c'est vraiment, vous avez absolument raison, c'est dès le départ.
Alors, vous avez parlé un peu de malbouffe, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos artères quand on mange trop gras, trop sucré ou trop salé?
Alors, il faut essayer de se représenter ce qu'est une artère. Représentez-vous un tuyau d'arrosage. Vous voyez un tuyau d'arrosage, si vous le voyez en coupe, il y a plusieurs couches les unes autour des autres. Un peu comme des poupées russes, quoi, si vous voulez. Et à l'intérieur des artères, c'est pareil. La paroi des artères est faite de plusieurs couches comme ça. Et à l'intérieur, il y a une couche particulière qui, dans notre jargon, s'appelle l'endothélium et qui agit comme un vernis qui protège la paroi de l'artère de tous les toxiques qui peuvent se balader à l'intérieur du sang. Et toutes les agressions de ce vernis, de cet endothélium, ça va favoriser le fait que le vernis va devenir plus poreux et que le cholestérol ensuite va aller se déposer à l'intérieur de la paroi pour former des plaques qui vont ensuite venir rétrécir les artères ou éventuellement les boucher complètement. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose.
C'est le cholestérol, c'est la même chose qu'athérosclérose ?
Oui, on dit le cholestérol, c'est un peu simpliste de dire le cholestérol, mais grosso modo, c'est ça. Ce sont des plaques qui sont constituées essentiellement de lipides au départ. Et puis ensuite, c'est du gras. Et il y a ensuite une inflammation qui se crée et qui vient entretenir ce mécanisme.
Et malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ce gras et cette malbouffe. Certains vont faire des événements, d'autres pas. Et sauf qu'on ne sait pas qui va faire quoi.
Absolument. Alors, on peut le savoir un peu quand on sait que dans sa famille, il y a eu des gens qui ont fait jeunes, avant 50 ans, avant 60 ans pour les femmes, qui ont fait des accidents cardiaques. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a probablement un risque héréditaire un peu plus grand que son voisin qui n'aurait pas eu la même chose. A contrario, mais ça, malheureusement, c'est beaucoup plus rare, il y a des gens qui ont des modifications génétiques du métabolisme du cholestérol, justement, qui font qu'ils ont spontanément, et sans rien faire, c'est vraiment leur gène, un taux de cholestérol très bas. Et ces gens-là font infiniment moins d'accidents cardiaques ou cérébraux que les autres.
Professeur Danchin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, on vous dit tout aujourd'hui sur la façon de chouchouter votre cœur, mais aussi vos artères, car oui, il est possible d'éviter bon nombre de maladies cardiovasculaires en modifiant nos comportements. Nous allons vous donner des conseils que l'on peut tous appliquer au quotidien. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Nicolas Danchin. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et avec vous, on circule dans notre système cardiovasculaire cet après-midi pour apprendre à en prendre soin au quotidien. On parle donc de notre cœur, mais aussi de nos vaisseaux. Et on dit souvent, dans le langage commun comme ça, j'ai l'âge de mes artères. Est-ce que d'un point de vue médical, c'est correct de dire ça ?
Alors, ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être. Ce qui est sûr, c'est que plus on va vieillir, plus les artères vont en prendre un coup, si
elles
je puis dire.
C'est-à-dire
qu'elles
ouais.
vieillissent aussi. C'est comme notre peau, c'est comme, je veux dire, tout notre organisme vieillit. C'est
elle vrai aussi pour les artères. Elles se comme notre peau.
Elles se rigidifient surtout, plus qu'elles ne se rident à proprement parler. Et du coup, elles deviennent plus sensibles à leur vernis interne dont on a parlé tout à l'heure fonctionne moins bien et elles deviennent plus sensibles aux agressions. Et à partir de là, effectivement, on peut quelque part dire qu'on a ou qu'on n'a pas, en fonction du mode de vie qu'on a eu, de l'hérédité qu'on a eu aussi, on a ou on n'a pas l'âge de nos artères.
Alors, vous en avez un petit peu parlé, on sait que le tabac, ce n'est pas bon pour le cœur et les vaisseaux. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les vaisseaux, dans les artères d'un fumeur ?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le tabac charrie des substances toxiques. Pas tellement la nicotine, bizarrement, quoi que ce soit pas excellent non plus, mais il y a tout un tas de substances toxiques qui viennent de la combustion et de ce qu'il y a dans les cigarettes, qui vont venir attaquer, qui passent dans le sang, et qui vont venir attaquer ce fameux vernis. Et ça va provoquer une inflammation du vernis, donc qui va devenir, si on le voyait, il deviendrait un peu plus rouge et il devient plus poreux. Et c'est pour ça que le tabac est dangereux pour les artères, parce qu'il fragilise beaucoup les artères. En plus de ça, il favorise la formation de caillots à l'intérieur des artères. Et en fait, le mécanisme des crises cardiaques, des infarctus, c'est quand on a une plaque qui va se fissurer, le vernis va se rompre complètement, et il y a une mise en contact de l'intérieur de la paroi de l'artère avec le sang qui circule à l'intérieur de l'artère. Et le sang, il reconnaît qu'il y a un truc pas normal. Et donc, il va essayer de boucher la plaie, ce qu'il voit comme une plaie. Il va faire la même chose que quand vous vous coupez sur la peau, il va faire un caillot. Et l'artère du cœur, c'est tout petit, ça fait 3 mm de diamètre en général, à peu près, et il suffit de pas grand-chose pour que le caillot vienne boucher l'artère. Ça va provoquer une crise cardiaque.
Vous dites pas grand-chose, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un seuil? Parfois, on dit « Oh, moi, ça va, je fume que 5 cigarettes par jour ». Est-ce que vous avez décrit cette fragilisation des artères dans les plaques qui vont s'enfuir comme ça et aller boucher des caillots qui se forment? Est-ce que ça peut arriver dès la première bouffée de cigarette? Je veux dire, chaque cigarette peut être dangereuse. Est-ce qu'à 5 cigarettes, on risque ce genre d'accident?
Il y a deux questions dans la question que vous me posez. La première question, c'est de dire, est-ce que à long terme, on a une proportionnalité d'une sorte ou d'une autre entre le nombre de cigarettes qu'on fume et le risque de faire, mettons, un infarctus ou un accident cardiaque? Là, la réponse, elle est oui, elle est très claire. C'est-à-dire que si vous fumez 20 cigarettes, vous avez plus de risques que si vous en fumez 10, et plus de risques que 5, et plus de risques qu'une. Et une, c'est plus que zéro.
Et, oui.
Et puis, donc ça, c'est au long cours. C'est l'agression petit à petit des artères, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Et puis, y a le risque instantané lié au fait qu'on fume. Et on sait qu'au moment où on fume, on peut déclencher, alors c'est relativement rare, faut être honnête, mais on peut déclencher ce qu'on appelle des spasmes sur les artères. Les artères vont se contracter et à ce moment-là, il y a un risque aussi qu'elles se bouchent si en dessous, il y a déjà une plaque qui les rétrécit.
Alors, toujours dans ce thème des vaisseaux, il y a aussi un tueur silencieux qu'on appelle l'hypertension artérielle. Pourquoi est-ce qu'avoir une tension trop élevée, ce n'est pas bon pour notre cœur?
Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir à chaque battement cardiaque des coups qui vont venir taper sur les artères.
Oui.
Et plus votre tension est basse, moins les coups sont forts. C'est tout bête, la cardiologie. Donc vous allez
avoir. On pourrait tous être cardiologue, finalement.
Des coups, mais je pense que beaucoup de monde pourrait l'être, dans le fond. En fait, il va y avoir des à-coups comme ça, répétés, 60 fois par minute, 80 fois par minute, qui vont venir taper sur les artères. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde, quel que soit le niveau de pression artérielle, mais plus la pression est élevée, plus ça va taper fort et plus ça va fatiguer les artères, en quelque sorte.
Et Jimmy l'a dit, l'hypertension artérielle, on appelle ça le tueur silencieux, parce que même si ça tape fort dans nos tuyaux d'arrosage, là, par contre, on n'a pas forcément de symptômes.
En général, effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai souvenir, c'est une histoire dramatique, d'un de mes collègues qui avait développé un peu à bas bruit des troubles cérébraux. Il n'était pas vieux du tout, il n'avait pas 60 ans. Et puis les gens autour de lui n'osaient pas trop en parler, etc. Et puis un jour, il m'a appelé parce que non seulement il avait eu ces affaires-là, qu'il avait lui-même pas trop affolé, mais il s'était senti très essoufflé. Et quand je lui ai pris sa tension, il dépassait le manomètre. Il avait plus de 30 de tension artérielle. Et il n'avait jamais rien senti jusque-là. Donc c'est vraiment... C'est dangereux, c'est un tueur silencieux.
Et contrôler de temps en temps, c'est toujours mieux, effectivement, on le comprend. Professeur Danchet, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous aide à prendre soin de votre cœur et de vos vaisseaux. Aujourd'hui, on fait la totale, on bichonne toute la tuyauterie. On vous rassure, on vous donne les meilleurs conseils pour une santé cardiovasculaire au top du top. On y revient très vite, restez bien avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Nicolas Danchin. Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et on continue avec vous ces conseils aujourd'hui pour maximiser nos chances d'avoir une super santé cardiovasculaire. Je crois qu'il y a d'ailleurs un autre aspect très important qui vous inquiète particulièrement, vous les cardiologues, dans le contexte actuel, peut-être encore plus même, c'est la sédentarité. En quoi elle nuit directement à nos vaisseaux et notre cœur?
Alors, il y a une double... une double action. Il y a la sédentarité complète, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Et puis, il y a, à l'inverse, les bienfaits de l'activité physique. Mmh. Alors, les deux sont évidemment un peu liés. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi là, c'est qu'il y a des questions d'habitude. Quand vous avez une vie physiquement active, tout votre système va s'y habituer. Vous allez développer des muscles, vos muscles seront plus costauds, si je puis dire. Mmh. Et à ce moment-là, ils vont avoir besoin de moins travailler pour fournir le même effort. Et donc, du coup, ils ont besoin de moins d'alimentation. Ça repose le cœur, si vous voulez, en quelque sorte. En plus de ça, on sait que l'exercice physique va sécréter un certain nombre de substances qui vont avoir un effet bénéfique sur ce fameux endothélium, ce fameux
le vernis du tuyau.
Et donc, voilà. Et donc, ça va venir contrebalancer les effets néfastes d'autres agressions, des agressions qu'il peut y avoir par ailleurs.
Et du coup, quel repère simple on peut donner à monsieur et madame tout le monde en termes d'activité physique? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon acceptable, évidemment?
Alors, je crois, moi, que l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre qu'il faut intégrer l'activité physique, une activité physique régulière, à sa vie de tous les jours. J'ai fait, moi, l'essai de recommander à des patients qui me disaient « si j'achète une bicyclette électrique, qu'est-ce que ça va donner ?» etc. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, les gens vont faire ça pendant 3 semaines, puis après, ça leur casse les pieds, ils arrêtent. Et donc, on n'a rien gagné, ils ont dépensé des sous, mais c'est tout. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui vous corresponde. Si je prends moi, par exemple, je n'aime pas le sport.
Comme un ça. Cardiologue qui le dit, qui l'avoue
et
comme
je
ça,
l'avoue.
Sans complexe.
Parce que ça me, ouais. J'aime pas ça. Quoi.
Bon,
en revanche, j'adore marcher. Donc, je marche beaucoup. J'aime bien nager. Donc, quand je peux, je n'aime pas trop les piscines. Donc, ça m'arrive
elles
moins
sont fermées,
souvent.
De toute façon,
mais dans la mer, j'aime nager. Des choses comme ça, j'aime bien faire. Mais surtout la marche, j'essaye de marcher un maximum. Quand je prends le métro, je ne prends pratiquement jamais un escalator. Alors, c'est une discipline. Ouais. Parce que même quand vous êtes crevé le soir,
intégrer,
vous rentrez chez vous,
c'est
quand même tentant de prendre l'escalator. Donc, il faut se dire, non, ben, je ne vais pas le faire. Et finalement, alors c'est pas grand-chose, hein, mais c'est suffisant pour que la machine soit bien entretenue.
Trop de sport, à l'inverse, ce n'est pas nocif pour le cœur. On voit parfois des accidents spectaculaires sur des terrains de foot ou chez des sportifs, même amateurs, avec des dégâts comme ça qui s'écroulent alors qu'ils sont jeunes, en bonne santé. On ne risque pas d'en faire trop?
Alors, il y a là encore deux notions. Il y a le trop par du sport un peu antiphysiologique. Il y a eu des études qui ont été faites chez des marathoniens, par exemple, qui montrent qu'ils ont tendance à calcifier leurs artères plus vite que des non-marathoniens qui auraient le même profil de risque par ailleurs. Donc effectivement, peut-être que des efforts extrêmes, des sports extrêmes, c'est pas forcément très bon pour les artères. En revanche, les accidents que vous décrivez, s'ils arrivent au moment où on fait un effort, j'allais dire classique, de sport ordinaire,
c'est parce qu'il y avait quelque chose avant.
C'est parce qu'il y a quelque chose avant et ce serait très probablement arrivé dans d'autres circonstances. C'est un facteur déclenchant.
Vu qu'on parle de marathon, peut-être de sprint, ça dépend certains. Est-ce que les rapports sexuels sont bons pour le cœur et les vaisseaux?
Est-ce qu'on a la comparaison
d'une idée scientifique à ce
propos? Alors, je ne pense pas qu'on ait des données scientifiquement extraordinairement validées là-dessus. On a la coutume de dire que l'acte sexuel, dans des conditions standards, si je puis dire, ça représenterait l'équivalent de monter 2 étages
à pied. C'est pas
mal
déjà, oui.
Alors, j'avoue que je ne sais pas très bien qui a été mesuré. Ça a été fait quand même. Ça a été fait dans certaines études.
Bon. C'est une manière d'intégrer de l'activité physique dans son quotidien, comme une autre. Alors, pour prendre soin de son cœur, il y a aussi un point important, je crois, c'est de s'intéresser malgré tout à son tour de taille. Pas pour des raisons esthétiques, mais finalement, le chiffre qu'on trouvera sur le mètre ruban, il est important pour se dire, tiens, je suis peut-être à risque de cardiovasculaire, c'est quoi le mauvais chiffre s'il y en a un?
Alors, il y a plusieurs mauvais chiffres. C'est pour ça que je n'ai pas très envie d'en donner un là, parce que selon les recommandations nord-américaines, européennes, etc., les chiffres varient un peu. Mais globalement, il faut savoir que ce n'est pas bien, effectivement, enfin, que ce n'est pas bon pour les artères d'avoir un trop gros ventre, parce que le fait d'avoir un gros ventre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de graisse qui se met à l'intérieur du ventre, autour de tous les organes, et pas seulement sous la peau.
Donc la graisse viscérale,
c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, et c'est là encore, potentiellement toxique pour l'endothélium, cette graisse viscérale.
Du coup, on ne se jette pas sur le ruban maître, mais on va voir son médecin, peut-être son médecin traitant, qui peut le faire avec vous et prendre d'autres mesures. Parce qu'il n'y a pas qu'un chiffre, il y a plusieurs chiffres.
Voilà, exactement. Ça me paraît très bien. Et puis, on se rend compte soi-même, en achetant ses pantalons.
Quand on rentre dedans, c'est réglé. Très bien. Professeur Danchin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci pour tous vos conseils cet après-midi pour les auditeurs d'Europe 1.
Plaisir.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien avec un peu de prévention encore, cette fois-ci sur le cancer du côlon. On va parler du dépistage de ce dernier qui permet de le détecter très tôt. Découvert précocement, on en guérit dans 90% des cas. Donc ça vaut le coup d'en dire un mot. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, on va passer à notre chronique Les mots du quotidien. On va faire un point sur le dépistage du cancer colorectal. Vous vous dites peut-être, bon, c'est pas trop sexy comme sujet, mais c'est combien important pour votre santé, vous allez comprendre dans un instant. Avant ça, on a testé vos connaissances sur le dépistage de cette maladie, qui n'a malheureusement pas encore assez de succès. On écoute tout de suite le micro-trottoir de Valentin Piovesan.
Je connais pas tellement ce cancer-là. Bon, j'imagine que ça se situe au niveau du côlon et du rectum.
C'est le cancer du col colorectal, j'en sais pas plus.
Je connais seulement les cancers qui sont plutôt vers la tête et le cerveau.
C'est peut-être le cancer du côlon, non ? Ou quelque chose qui est en rapport avec le côlon, non ?
Oui, c'est le cancer sûrement des intestins, je suppose.
Justement, dès qu'on a des problèmes intestinaux ou du sang dans les selles, il faut quand même tout de suite aller consulter.
J'entends pas mal de dépistages, des campagnes pour dépister les gens de ce cancer-là, mais je n'en ai aucune idée.
On fait un prélèvement et puis derrière, ils analysent des cellules ou des souches de cellules.
Vous devez récupérer des selles, mettre dans un tube et l'envoyer chez le médecin.
Dire qu'il y a du sang dans les selles, si même examiner des selles, ouais, ça me dégoûte un peu. Ouais.
Bon, ça dégoûte un peu, Jimmy, on l'a compris, on s'en doutait. On va reprendre du début. Le cancer colorectal, c'est un sujet important en France parce que c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. Qui touche qui d'ailleurs ?
Alors, c'est le troisième cancer le plus fréquent en France. C'est 40 000 cas chaque année et c'est le deuxième cancer le plus meurtrier. Ça touche des hommes et des femmes qui vont avoir plus de 50 ans. Raison pour laquelle il faut se faire dépister, puisque c'est un cancer qui se traite plutôt bien.
Justement, vous dites dépister, mais dépister tôt, c'est ce que permet d'ailleurs ce dépistage. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, si on fait ça tout ça très bien, on peut s'en sortir très souvent.
Exactement. Alors, il faut bien comprendre que l'histoire naturelle d'un cancer, elle est plutôt longue. Et c'est un cancer, avant de développer des symptômes, eh bien, il va se passer des mois, voire des années. Sauf que le cancer colorectal, lorsqu'il est pris à temps, eh bien, dans 9 cas sur 10, vous allez en guérir. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour le traiter, et qu'il faut le prendre à la racine au terme de dépistage massif et un peu précoce, comme on le fait notamment pour le cancer du sein ou d'autres types de cancers.
Alors justement, on en vient à ce dépistage du cancer colorectal, puisqu'il est organisé en France. Il s'adresse à qui concrètement et on cherche quoi ?
Alors c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, puisqu'on sait que le cancer va toucher les personnes de plus de 50 ans. Tous les 2 ans, il est possible, grâce au médecin traitant, il va vous donner un petit kit pour détecter du sang dans les selles. Lorsqu'on fait ce test, si jamais il est positif, on vous invite à faire une coloscopie pour aller voir votre tube digestif. Et si jamais il y a un petit polype, le polype, c'est une petite tumeur qui est bénigne, mais qui, avec le temps, peut développer, se transformer en véritable cancer. Donc, un, on fait le diagnostic et deux, on vous en débarrasse à ce moment-là et on fait une biopsie pour savoir si jamais c'était cancéreux.
Alors, les trucs dégoûtants, comme le disaient certains dans le micro-trottoir, nous, on s'en fiche, on n'a peur de rien dans cette émission. Jimmy, on est d'accord, on ne touche pas du caca.
Non, évidemment, on ne touche pas du caca. Alors, il y a quelques manipulations à faire malgré tout.
Il y a un petit truc pour ça tombe avez... dedans, on ne le touche pas avec les doigts.
Exactement, oui, on ne vous demande pas, vous, d'aller chercher du sang avec vos petits doigts.
On ne va pas le récupérer dans les toilettes non plus.
Non, exactement, non. C'est très bien organisé. Vous avez un petit sachet plastique, vous mettez sur la cuvette, vous avez une enveloppe. C'est très bien fait. Et surtout, le but, c'est que ça sauve des vies. C'est qu'étant donné qu'on a un retard à l'allumage, eh bien, on ne va pas diagnostiquer certains cancers. Et en termes de participation, on est aux alentours de 30% en France.
C'est pas beaucoup.
Donc, ça veut dire qu'on peut faire mieux. Et en faisant mieux, on sauvera des vies. L'enjeu est là. Et un peu de caca, ben on va s'en remettre.
Ouais, très bien. Et Jimmy, si le test revient positif, d'ailleurs, vous disiez, on cherche un petit peu des traces éventuelles de sang dans les selles. Peut-être on aura besoin de faire une coloscopie. Mais si sang dans les selles, il y a, ça ne veut pas dire cancer dans tous les cas.
Absolument pas. Ça veut dire qu'il faut aller faire une coloscopie pour voir s'il y a un polype ou non. Et à ce moment-là, on vous en débarrasse. Mais la présence de selles ne signe pas le cancer.
Pas de selles. La présence de selles, c'est normal. Il y en a tous les jours.
La présence de sang dans les selles, pardon, ne signe absolument pas la présence d'un cancer.
Et donc, ça ne coûte pas d'argent.
C'est gratuit.
C'est pris
en charge par la collectivité, la sécurité sociale. Tous les 2 ans, et c'est votre médecin traitant qui vous remet ça.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour ce point de prévention très important.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on retrouve Catherine Blanc et sa chronique sexo. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed.
Vous allez
bonjour.
Y arriver.
Oui, Jimmy, ça fait qu'un an et demi qu'on travaille ensemble, c'est très peu finalement. Et donc c'est Catherine Blanc qui arrive avec nous en studio aujourd'hui. Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Christelle qui nous demande « J'ai perdu ma maman lorsque j'étais jeune fille, j'ai été élevée par mon père. Aujourd'hui, je réalise à 37 ans que j'ai du mal à définir ma féminité. Qu'en pensez-vous » Catherine, est-ce que le fait d'avoir perdu sa maman très tôt, finalement, bah, ça peut vraiment avoir des répercussions à ce point, telles que les décrit Christelle, notamment sur sa féminité. La mère est à ce point déterminante de la transmission de ce concept-là de la féminité. Je dis concept, d'ailleurs, c'est pas
oui, bon enfin, terme. Oui et non, parce que, évidemment, cette maman serait de ce monde, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle serait en compétence de transmettre une paisibilité quant à sa position de femme et sa compétence à transmettre des signes ou des valeurs ou des forces à son enfant. On fait ce qu'on peut les unes et les autres avec notre féminité et dans le meilleur des cas, nous arrivons à distiller une idée de puissance de ce genre féminin, une idée des compétences que cela ouvre. Mais bon, on fait comme on peut les unes et les autres. Donc quand une maman n'est plus, évidemment que là, il y a un papa qui se charge de l'éducation, mais un papa n'est pas non plus exempt d'un regard sur les femmes. Donc, il ne suffit pas simplement d'avoir un modèle pour se caler ou se calquer sur ce modèle.
On peut avoir une belle éducation aussi au féminin, entre guillemets, avec un papa compétent, bien sûr.
Bien sûr, parce que lui, il va apporter, par son essence d'homme, il va apporter une lecture du masculin qui est la sienne, mais il va aussi regarder le monde des femmes, et du coup, transmettre ses valeurs à son enfant. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a bien sûr la sphère familiale qui nous permet de nous construire dans notre féminité. Là, nous parlons de féminité, mais on pourrait dire de masculinité.
L'inverse, bien sûr.
Mais nous sommes aussi dans une société où nous allons avoir aussi la possibilité, en fonction de notre curiosité, d'aller chercher des modèles extérieurs pour nous appuyer sur ces modèles ou en tout cas s'en enrichir.
Oui, parce que si on prend le cas de deux papas qui vont élever une petite fille, cette petite fille n'aura pas de problème de féminité, mais on peut se dire que la féminité va aussi se construire avec la société. Et puis regard de la société sur les femmes, donc c'est pas que une histoire, vous l'avez dit, familiale.
Non, bien
c'est
sûr.
C'est la société, les gens qui nous entourent, les amis, peut-être les cousines, les copains, les copines.
Absolument. C'est vrai que nos parents sont majeurs, surtout dans une société où on est en petit comité. On n'est plus dans des familles, ou peu dans des familles, en tout cas, pour parler de la France, où il y a plusieurs personnes dans la famille, les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, tout ça dans une grande proximité qui offre une quantité importante de modèles. Alors heureusement, il y a les maîtres et maîtresses d'école, il y a les autres adultes, les parents de nos amis, qui vont jouer aussi un rôle porteur important. Donc évidemment que plus on est dans des petits réseaux, plus on est limité dans nos référentiels. Mais l'enfant est curieux et donc laissons la liberté à l'enfant d'aller grandir. Et comme vous le disiez très justement, Jimmy, une petite fille qui serait éduquée par deux papas, elle a bien sûr deux modèles de papa et en plus deux visions de virilité différentes en plus. C'est pas parce que ce sont des papas qu'il y a un seul modèle. Et puis il y a évidemment tout l'environnement parce que ces papas ont une maman, ont des sœurs, encore une fois, et donc ça ne fait pas de cette petite fille un garçon manqué. D'ailleurs, on peut avoir un père et une mère et être un garçon manqué, enfin dit manqué parce qu'en fait on n'est qu'une fille réussie en réalité.
Voilà, c'est ça. Elle dit qu'elle a du mal à définir sa féminité, on l'a bien compris, c'est pas forcément peut-être que c'est douloureux encore effectivement le deuil de cette maman, mais c'est peut-être pas ça qui caractérise finalement ce problème de repère au niveau de la féminité. D'ailleurs, c'est quoi une féminité? Elle dit j'ai du mal à définir ma féminité. C'est quoi la féminité?
Bon, il n'y en a pas un de modèle, évidemment. C'est en tout cas être en paix avec son corps, en paix avec son sexe et créatif dans sa compétence à en jouir. Quand je dis en jouir, je ne parle pas que sexuellement, c'est-à-dire aussi sa compétence à décider de ce que cela me permet, notamment par exemple de faire des enfants, mais pas nécessairement non plus. Donc les lectures de féminité ne se résument pas à une fonction. C'est simplement être en paix avec ce que l'on est, pas dans le déni de ce que l'on est, sans avoir le sentiment que c'est une injonction permanente venue de l'extérieur qui nous contraint à nous limiter, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est une fille que l'on ne peut pas avoir des compétences que l'on aurait attribuées au masculin. L'erreur est de penser qu'il y a des attributions et émotionnelles et de compétences à un sexe et pas à un autre.
Surtout qu'elle dit ça alors qu'elle a 37 ans, il est possible que dans son couple, dans son histoire histoire personnelle avec des hommes ou des femmes, peu importe, eh bien, il s'est passé quelque chose qui lui fait remettre en question cette histoire de féminité. C'est peut-être pas un rapport forcément avec sa maman qui est décédée.
Absolument, ça c'est elle qui fait ce lien et peut-être qu'il y a raison, hein, peut-être matière à, mais c'est surtout ses doutes quant à elle-même, sa tranquillité ou intranquillité dans son lien amoureux, dans sa sexualité, dans son aisance. Et c'est un peu ce doute quant à elle, son manque de légitimité, peut-être parce qu'il lui manque des référents, peut-être parce qu'elle a eu le sentiment d'avancer un peu en boitant, puisqu'il manquait un parent référentiel, et que du coup elle en a fait une idée d'incomplétude. Et évidemment que ça c'est le lot de tous en fait, nous évoluons dans notre vie en grandissant et en nourrissant notre compétence à nous sentir hommes et femmes tout au long de notre existence, ce n'est pas acquis dès le départ.
Il n'est jamais trop tard en plus pour se faire aider si besoin.
Et bien sûr, mais bien sûr.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc je vous dis à demain.